5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à tous, bienvenue dans Le Monde ne suffit pas, l'émission d'actualité internationale de Transistor qui a l'honneur d'ouvrir ce direct. Mercredi, nous vous proposions notre traditionnelle revue de presse que vous pouvez toujours écouter dans la rubrique Actu de notre site. Et aujourd'hui, voici le dossier de la semaine consacré à la Tunisie. Ce pays, longtemps synonyme de vacances et de soleil pour bon nombre de Français, prend soudain un autre visage avec cette révolution de jasmin, Rémi.
Oui, et comme d'habitude, nous allons essayer de prendre un peu de recul pour tenter de mieux comprendre l'agitation qui s'est emparée ces derniers temps de la Tunisie. Et pour cela, nous jetterons un œil à la presse étrangère. On va aussi parler un peu d'histoire, mais surtout, nous allons recevoir une étudiante tunisienne de l'ENS qui était en Tunisie au début des événements. Bonjour Siem.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, je voudrais vous remercier aussi de m'avoir invité pour expliciter un peu la situation et parler de la Tunisie.
Mais tu es la bienvenue.
Merci.
Alors nous allons commencer, si tu le veux bien, Siem, par un bref retour sur les événements récents. Le 17 décembre dernier, un jeune vendeur de légumes s'immole par le feu. Des manifestations et des émeutes s'ensuivent dans tout le pays, qui conduisent le président Ben Ali à remanier son gouvernement le 29 décembre pour tenter de garder le calme. Le 10 janvier, il va plus loin. Il propose des mesures économiques et sociales, et notamment la création un peu irréaliste de 300 000 emplois publics. Le 13 janvier, il doit promettre qu'il ne se représentera pas aux élections et quitte finalement le pays le lendemain. Un gouvernement à peu près définitif est formé le 27 janvier après de multiples changements. Il comprend des personnalités de l'opposition, des membres de la société civile. Et si le premier ministre de Ben Ali, Mohamed Ranouchi, est toujours en place, les autres membres du RCD, le parti présidentiel, sont cette fois-ci exclus. Ce gouvernement a notamment la charge d'organiser rapidement des élections présidentielles, mais leur date n'est pas encore fixée.
Bon, Siem, la première question qui nous vient, c'est... Comment on peut expliquer que le suicide d'un jeune garçon, même si ça a été sous une forme particulièrement spectaculaire, comment expliquer que ça puisse être à l'origine d'une révolution d'une telle ampleur qu'on n'aurait jamais imaginé en France ?
Effectivement, Mohamed Bouazizi est devenu un symbole et une icône de la révolution tunisienne. Et en fait, ce qui s'est passé, ça relève d'un dysfonctionnement du système administratif et de l'appareil du corps de la police. Parce que après ce qui s'est passé, plusieurs jeunes se sont reconnus en l'image de Mohamed Bouazizi et ils ont soutenu justement ce mouvement et qu'il a déclenché parce qu'ils ont vu que c'est de leur droit de revendiquer une liberté et le droit à l'expression qui doivent être en fait des droits humains. Et en fait, cela aussi exprime l'abus exercé par l'appareil policier. Ça dénote aussi d'un système erroné, d'une société qui souffre du chômage, de l'oppression, de la précarité, de l'injustice aussi. Et même sur un plan économique, la Tunisie n'est pas au point depuis un moment. Et cela en fait se fait voir il est perceptible par une hausse massive des prix. Et à cela s'ajoute aussi l'oppression politique, c'est-à-dire que les gens ils n'ont pas le droit de s'exprimer, de parler politique, d'intervenir, enfin de décider de leur avenir. Donc le système, en fait, il est tellement rigide, tellement fermé sur lui-même qu'il ne laisse pas en fait, le choix, il ne laisse pas une liberté aux jeunes, qui est en fait la catégorie de la société la plus touchée par... par ce qui se passe en Tunisie.
Alors justement, c'est un jeune, Mohamed Bouazizi, qui a été à l'origine de ce mouvement. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était un jeune vendeur de légumes qui avait auparavant fait des études. Est-ce que cette situation, des jeunes qui ne parviennent pas à trouver un emploi qui correspond à leurs études, est fréquente en Tunisie?
Justement, en fait, c'est très fréquent en Tunisie, des jeunes diplômés qui font des études, qui suivent tout un cursus universitaire pour se trouver après sans emploi, sans fonction et parce qu'en fait c'est contrôlé par un ministère qui privilégie des gens qui ont des prérogatives, des gens qui ont des connaissances, des gens qui ont je sais pas, réaliser une ascension. C'est-à-dire que on est sensible à ce point-là que des jeunes diplômés qui ne trouvent pas un emploi et qui n'ont même pas en fait l'espoir d'en avoir enfin un de ces jours-là.
Et est-ce que, alors on parlait tout à l'heure en introduction de l'influence, enfin de l'image en tout cas d'un pays touristique pour nous français voire occidentaux, est-ce que le tourisme est malgré tout une bouée de sauvetage pour la Tunisie ou est-ce qu'on n'en voit pas vraiment les effets ?
En fait, le tourisme, ça a été toujours une bouée de sauvetage parce que ça sauvait à plusieurs reprises l'économie. En fait, ça reste un des agents économiques les plus... il est très, très primordial en fait, dans le cercle économique du pays. Il contribue à l'essor économique. Et une grande part de l'économie tunisienne est basée justement sur le tourisme.
Mais ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas.
Et tu nous as parlé aussi tout à l'heure de la condition difficile de ces jeunes. Et justement, la question des inégalités dans la société semble vraiment fondamentale. Et donc, quel rôle ont pu jouer ces inégalités ? Est-ce qu'elles sont fortes en Tunisie ? Et comment elles ont pu porter la révolte ?
En fait, en Tunisie, il y a une catégorie sociale qui détient tout, qui contrôle tout. Ce sont les proches des familles très grandes, proches du régime et du pouvoir de Ben Ali. C'est la famille de Trabelsi, par exemple, de sa femme, ou bien son gendre El Matri, ou bien Mabrouk. Et enfin, ils ont mis la main sur les industries, les usines. Et en plus, en fait, ils ont développé cette marche de privatisation et c'est leur moyen en fait de s'accaparer de la richesse du pays, d'épuiser la caisse de l'État. Et voilà, et donc ce mouvement populaire, c'est l'expression d'un ras-le-bol, c'est l'expression en fait d'une situation vraiment très précaire et très délicate qui est en train de vivre les jeunes Tunisiens qui sont dans le besoin. Et en plus, en fait, ce mouvement, il s'est déclenché justement dans une région du pays, c'est le sud-ouest du pays, en fait. Et ce sont vraiment des villes et une région de la Tunisie qui est très défavorisée par rapport aux villes justement touristiques qu'on connaît et où en fait l'économie elle est bien implantée.
Parce qu'on peut rappeler rapidement que justement sur cette question des inégalités, il y a deux éléments qui jouent de manière importante. C'est l'opposition entre rural et urbain, avec une richesse qui est plutôt concentrée dans les villes, mais également une opposition entre le littoral, qui est justement l'endroit du tourisme, qui est plus riche que les espaces en arrière. Une question de Rémi.
Oui, et là on a vu les inégalités géographiques et du coup qui expliquent la géographie de la diffusion de cette révolte et comment elle s'est diffusée dans la société. On a vu qu'elle était partie des jeunes, mais elle a été relayée ensuite par exemple par les avocats.
Oui.
Comment elle s'est diffusée dans la société ? Qui a pris le relais et pourquoi ?
En fait, ce sont les jeunes au départ qui ont commencé ce mouvement. L'initiative est aux jeunes. Après, en fait, ce mouvement-là, il était soutenu et encouragé par les avocats qui étaient toujours là, en fait, pour maintenir cette ferveur et pour encourager les gens à revendiquer leurs droits. Et après, en fait, l'intervention de l'UGTT, c'est la centrale syndicale, qui a vraiment... qui avait un grand rôle en fait dans ce mouvement, c'est-à-dire que l'appel à la grève qu'a lancé l'UGTT, je pense que 90% des fonctionnaires ont répondu favorablement à cet appel-là, et donc c'était une grève générale, ce qui a fait que les manifestations aient une plus grande ampleur.
Est-ce que les médias et la presse ont justement accompagné ce mouvement ou est-ce qu'ils étaient encore sous le coup des interdictions et du contrôle ?
Enfin, il y a eu une transition parce qu'au début, en fait, les médias, on vivait un flou médiatique en Tunisie, c'est-à-dire que les médias, ils étaient dominés par le pouvoir et donc ils ne diffusaient pas toutes les nouvelles, ils essayaient en fait de camoufler, de passer sous silence ce mouvement national. Et, mais après, en fait, il y avait des chaînes télévisées arabes qui suivaient vraiment de très près l'actualité, qui essayaient de rendre compte de cette expression de colère, de ces manifestations qui étaient en train de se propager dans tout le pays.
Des chaînes télévisées pendant l'ère Ben Ali, pouvaient avoir du mal, pouvaient avoir des problèmes de diffusion en Tunisie, non ?
Oui. En fait, les chaînes télévisées, ils étaient des instruments de propagande pour le régime. Par exemple, la chaîne nationale officielle, elle s'appelait Tunisie 7 novembre. Carrément, en fait, c'est la date où Ben Ali a détenu le pouvoir. Et c'est très abusif. Et en plus, en fait, c'était vraiment dirigé vers une politique de propagande et de soutien du régime qui était en place.
D'ailleurs, pour citer un autre exemple, le journal La Presse de Tunisie publiait tous les jours un portrait du président à la une. Et en ce moment, la presse française relaie beaucoup les incertitudes de ces journalistes qui, maintenant que la censure se lève plus ou moins, ne savent plus très bien comment repartir et dessiner une nouvelle ligne éditoriale beaucoup plus libre. Alors, dans un autre registre, quel a été le rôle de la religion, de l'islam, dans cette révolte ? Parce que finalement, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on se rend compte que le pays était très laïque, peut-être trop laïque.
Oui. Enfin, pour un pays qui se revendique musulman, donc vraiment, c'était... C'est très laïque, mais en fait, ce qu'on essaie de faire en Tunisie, c'est toujours de ne pas confondre pouvoir politique et religion, parce que dès le moment où on commence vraiment à associer entre les deux, on va être affronté, on va être confronté à plusieurs problèmes, et ce qu'on essaie d'éviter. Mais en fait, la religion, je ne pense pas qu'elle avait vraiment un grand impact sur ces mouvements-là. Mais après, en fait, après ce mouvement de cette révolution, les gens, vraiment, ils revendiquent une plus grande liberté dans la pratique de la religion. Ce sont des gens qui étaient quand même, il faut le dire, qui étaient très... ils étaient victimes, en fait, du pouvoir. Ils étaient très opprimés sur ce point-là, sur le...
Oui, la pratique de la religion dans l'espace public était très, très réglementée.
Très limitée, ouais. Voilà. Et donc, voilà, des mosquées fermées. En fait, on poursuivait les gens qui faisaient les prières et tout ça. Enfin, des rapports de police après qu'on a pu voir et qui, justement, faisaient en fait des comptes rendus détaillés des gens qui fréquentaient les mosquées, des gens qui portaient le voile. Et je pense que c'est quand même un peu poussé, tout ça.
Justement, dans ce que tu dis, Siem, on voit toute l'importance du contrôle par le pouvoir. Et on va justement s'intéresser au système politique tunisien, Antoine.
Oui, on va d'abord remonter un petit peu dans le temps. On remonte en 1951. Le pays est alors un protectorat français. L'indépendance que vient d'obtenir la Libye renforce les revendications côté tunisien. Le Destour, le néo-Destour de Bourguiba et l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens réclament l'autonomie interne. Après plusieurs mois de troubles et de négociations, le pays obtient l'autonomie interne en juillet 1954. Bourguiba, qui était exilé, revient et l'indépendance totale de la Tunisie est obtenue le 20 mars 1956. Alors, dès cette date, l'histoire politique de la Tunisie peut se définir à travers deux hommes et un parti. Bourguiba préside le pays en s'appuyant sur le néo-Destour, qui devient en 1964 le PSD, c'est-à-dire le Parti Socialiste Destourien, seul parti autorisé. Bourguiba est renversé pour sénilité en 1987 par son successeur Ben Ali. Le nouveau président change en 1988 le nom du parti, qui devient le Rassemblement Constitutionnel Démocratique ou RCD.
Alors, on voit dans tout ça quand même un régime qui se revendique comme étant démocratique, constitutionnel, c'est le sens du mot Destour.
Oui.
Donc, finalement, on se demande comment qualifier ce régime de Ben Ali. Est-ce que c'est un régime autoritaire sous des apparences démocratiques, une démocratie biaisée, carrément une dictature? Qu'est-ce qu'on peut dire?
À mon avis, je pense que c'est carrément une dictature, parce que déjà la prise du pouvoir, elle n'était pas vraiment dans les normes, elle n'était pas légitime, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait un renversement d'État, après, il n'a pas annoncé à des... il n'a pas en fait appelé les gens à faire des...
Des élections.
Des élections, oui. Voilà. Et donc, voilà, il était président et par la volonté, par sa propre volonté, c'est pas la volonté du peuple. Et en plus, en fait, il n'avait pas vraiment les qualifications qu'il faut pour prétendre à ce poste-là, par exemple. Enfin, il n'a pas eu son baccalauréat. Il était un policier. Après, c'était quelqu'un de très ambitieux, de très arriviste. Et en plus, il a été soutenu par quelques connaissances qui l'ont aidé, en fait, à faire une ascension et voilà, après à être Premier ministre.
Et on voit que même à l'échelle locale, le fonctionnement des institutions démocratiques peut être biaisé. Puisque oui, oui.
En fait, on peut dire que c'est à chaque fois une apparence de démocratie qui apparaît.
Oui, en fait, c'est l'image qu'on renvoyait de la Tunisie, et en fait. C'était orchestré
par les partis d'opposition sont présents officiellement.
Oui. Il y a en fait trois partis qui sont reconnus par le pouvoir, et je cite Tejdid et le FDTL, je pense que c'est... c'est un parti qui soutient les travailleurs et le travail, mais en fait ils étaient reconnus par le régime, ils étaient là en fait pour jouer le rôle de l'opposition, alors qu'en l'occurrence c'est pas une vraie opposition, c'est juste en fait c'est une mise en scène pour dire que voilà, il existe une opposition en Tunisie. Alors que ce n'est pas le cas.
Oui, puisque à titre d'illustration, si on regarde en 94, par exemple, on a à la Chambre 80% des sièges qui sont attribués par scrutin majoritaire à un tour dans les circonscriptions locales au parti de Ben Ali. Et ensuite, les 20% restants qui sont l'objet d'une répartition proportionnelle à l'échelle nationale. Donc, on voit que finalement, on a des apparences démocratiques, mais que le fonctionnement est très contourné, finalement.
Ouais. Et en plus, il y a plusieurs chefs de parti d'opposition qui étaient emprisonnés, qui étaient exilés. Et là, maintenant, ils sont de retour en Tunisie. Mais exprime le fait que toute opposition était interdite, elle n'était pas la bienvenue au sein du régime de Ben Ali.
Alors, mais ce qui est frappant quand on regarde un petit peu la chronologie... de l'histoire récente du pays, c'est que finalement, les révoltes contre le système, elles sont plutôt anciennes. Pour prendre quelques exemples, en 2000, après le décès de Bourguiba, on a la grève de la faim d'un journaliste contestataire qui s'appelle Taoufik Ben Brik. C'est un exemple parmi d'autres. On cite plus récemment aussi en 2005, d'octobre à novembre, plusieurs opposants, cette fois qui mènent une grève de la faim, dont des islamistes, pour la défense des libertés publiques. Alors, si ce climat de défiance vis-à-vis du pouvoir est ancien, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça marche, cette révolution?
En fait, parce que peut-être qu'avant, il y avait quand même des mouvements, et même dans ces régions-là où la révolution est née, Daif Gafsa, il y avait des mouvements d'ouvriers, des contestations d'ouvriers pour améliorer leurs conditions. Il y a deux ans, mais en fait, c'est vraiment, il y a un camouflage, il y a un flou médiatique qui fait que les gens, ils ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe en Tunisie. En plus, en fait, ce sont vraiment des mouvements minoritaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un grand nombre de gens qui ont participé à ça.
Est-ce qu'on peut expliquer que cette fois, le rassemblement a été fort? Est-ce que, par exemple, la forme spectaculaire du suicide a joué ou pas?
Je pense que ça jouait quand même, et en plus, en fait, c'est le fait d'accumulation d'injustices, l'accumulation de tout ce que les gens ont subi, ont souffert, et en plus, en fait, je pense que vraiment, c'est un ras-de-bol
C'était plutôt un déclencheur, finalement.
Voilà, qui a déclenché ce mouvement.
Et aujourd'hui, le 4 février, on peut pas ne pas évoquer la formidable diffusion de ce mouvement au Maghreb et même dans l'ensemble du monde arabe. Alors comment tu réagis, Siem, à la diffusion de ce courant de révolte en Afrique du Nord et au Moyen-Orient? Qu'est-ce que tu dirais?
En fait, il y a des gens qui qualifient la révolution tunisienne comme un séisme qui va toucher les autres pays de la région. Et je pense que les Tunisiens, ils ont eu l'initiative. C'est là où ça a commencé. Et les autres peuples, ils sont conscients que c'est à leur tour, en fait, de faire comme les Tunisiens et de faire entendre leur voix, de sortir de ce silence pour améliorer leur quotidien, pour améliorer leur situation. Parce que je pense que c'est similaire, c'est semblable ce qui est en train de se passer dans les autres pays arabes. Par exemple, l'Égypte, c'est la même politique d'oppression, c'est la même politique de censure, le système policier qui étouffe les gens et qui les empêche de s'exprimer, d'aller vers l'avant.
Merci beaucoup, Siem, pour ces quelques éclairages de quelqu'un qui a vécu les événements, parce que tu étais, on l'a dit, en Tunisie au moment du déclenchement. Alors, je signale que tu vas bientôt publier dans la revue de l'école Pensée un article justement sur la révolution.
Oui.
On sait quand est-ce que ce sera publié?
Je pense que ce sera la semaine prochaine. On est en train de travailler sur la mise en page.
D'accord, donc c'est pour bientôt.
Du journal, oui.
Merci beaucoup encore une fois, Siem, d'être venu dans le studio de Transistor pour ce direct. Alors, Antoine, suite du programme?
Suite du programme, merci de nous avoir écoutés déjà. Donc tout de suite, place aux actualités de notre école. À 14h30, dans une poignée de minutes, donc Olivier Faron sera interviewé par Caroline et Nassima. Mais juste avant, pour l'accueillir, voici François qui lui a préparé un petit compliment, n'est-ce pas?
Pourquoi c'est toujours moi qui m'y colle?